Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Que faire pour avoir une bonne santé mentale? On en parle tout à l'heure avec le professeur Daniel Okitundu, chef de département de neurologie à la faculté des médecines humaines de l'université de Kinshasa. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons aborder un autre thème, comment aider les jeunes filles à avoir une bonne vision de l'avenir. On recevra tout à l'heure Madame Promise Nsuka Denkusu, présidente de l'ASBEL. Allez-y les filles. Et Eleni Kambeya sera également de la partie, elle est vice-présidente de cette structure. Voilà, ainsi présenté les menus d'Okapi Service de ce jour. Pour participer, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Jean-Noël Mokondo, à la mise en onde, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Miko, aujourd'hui Daniel Keshama, bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Alors, je vous le disais tout à l'heure que nous allons parler aujourd'hui de la santé mentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé mentale? D'après les informations reçues, la santé mentale des bon nombre des citoyens congolais est très préoccupante. Selon les données statistiques du Centre Neuropsychopathologique, CNPP de Kinshasa, environ 20 millions de personnes, soit 20% de la population congolaise, souffrent des troubles mentaux. Cependant, seulement 5% ont accès, n'est-ce pas, à aux soins. Eh bien, nous voulons en savoir un peu plus avec notre invité qui est le professeur Daniel Okitundu, chef du département de neurologie à la faculté de médecine humaine de l'université de Kinshasa. Professeur Okitundu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Alors, le monde a célébré dernièrement la journée internationale de la santé mentale. Alors, quel état des lieux vous faites de la santé mentale des citoyens congolais aujourd'hui?
Ok, avant de le dire, permettez-vous de rectifier quelque chose. Vous êtes resté dans mon ancienne fonction. Je suis chef du département honoraire. Actuellement, je suis médecin directeur du CNPP depuis le début du mois de mai de cette année.
Ah, d'accord. Merci beaucoup, professeur, et félicitations pour vos nouvelles fonctions.
Ok, merci. Alors, voilà. Nous n'avons pas de statistiques sur le problème de santé mentale en RDC. Alors, comme on n'a pas de statistiques, on ne peut parler santé mentale que sur base de, on n'a pas de statistiques nationales, je voudrais dire, que sur base de faits et sur base de quelques études. Vous savez, aux années 1990, entre 87 et 90, le CNPP recevait 5000 nouveaux malades chaque année et il y avait un taux d'accroissement des nouveaux malades de 10%. Alors, le CNPP avait une capacité d'accueil de 450 lits, et pour le moment, nous fonctionnons avec 120 lits. Mais sur le terrain, je parle de faits. Il y a de faits de santé mentale qu'on peut relever au niveau communautaire et au niveau individuel. Au niveau communautaire, quand vous prenez l'insalubrité qu'il y a dans la ville de Kinshasa et dans d'autres coins de la République, ça c'est un indicateur sûr de mauvais état de santé mentale, parce que quand les gens ne sont pas en bonne santé mentale, ils régressent au niveau de fonctionnement, de développement des êtres corporels, au niveau animal, parce qu'on n'a jamais vu le porc nettoyer la porcherie, ni le poule nettoyer le poulailler. avec une ville sale comme la ville de Kinshasa, ça c'est un indicateur sûr que la population de la ville de Kinshasa est en mauvaise santé mentale. Vous prenez aussi la circulation routière. Regardez comment elle se présente. On roule dans tous les sens. Ça, c'est un indicateur sûr de mauvais état de santé mentale. Et les études, quelques études qu'on a réalisées montrent, par exemple, que le motocycliste, le conducteur des véhicules de transport en commun, un grand nombre d'entre eux a la dette de sommeil et ils abusent des substances psychoactives. Quand vous regardez aussi, vous tenez compte ce qu'on a dans nos quartiers, les Kuluna, les Pomba, les enfants de la rue, tout ça ce sont des indicateurs de faits qui montrent qu'on a des problèmes de santé mentale. Alors maintenant, quand vous considérez ce qu'il y a, les conséquences des guerres et conflits armés qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, les conséquences qui nous affectent tous psychologiquement. Là, on a des éléments qui montrent que nous avons des problèmes de santé mentale. Malheureusement, nous n'avons pas de statistiques nationales. Et quand vous considérez tous les événements stressants que nous vivons, ici par exemple à Kinshasa, bien sûr dans d'autres villes, les difficultés de transport, ce stress quotidien permanent, mais affecte notre santé mentale. Et puis quand vous considérez le malade mental errant, ceux qui mangent dans la poubelle qu'on voit dans la rue, ça ce sont des éléments qui montrent qu'on a de problèmes de santé mentale. Alors globalement, quand vous prenez en compte la pauvreté, le taux de pauvreté qu'il y a dans ce pays, on sait que la pauvreté s'accompagne automatiquement de problèmes de santé mentale, de problèmes émotionnels, parce que beaucoup des besoins fondamentaux de la personne humaine ne sont pas satisfaits. Alors maintenant, voilà. Et puis, quand on voit du point de vue des infrastructures de soins de santé mentale, la plupart, à peu près 90% des infrastructures de soins de santé mentale appartiennent aux ONG confessionnelles, non confessionnelles ou aux privés. Ça aussi, ça montre que du point de vue institutionnel, il y a un problème de santé mentale.
D'accord. Puis, vous... On retient qu'il n'y a pas de statistiques, mais lorsque vous citez tous ces faits, on comprend que il y a beaucoup de problèmes de santé mentale à cause de la pauvreté, comme vous l'avez dit, les conditions de vie et autres.
Alors, oui, et puis quelques statistiques sectorielles. Considérons par exemple la situation de femmes qui viennent d'accoucher dans la première année de la vie. Les études que nous avons réalisées indiquent que 6 à 9 femmes sur 10 et qui portent un bébé dans la première année de la vie, ici à Kinshasa, et en situation de dépression, ce qu'on appelle la dépression maternelle post-natale. Une dépression qui a des conséquences sur le développement humain au début, en fait sur le développement durable. Et en même temps, ces études montrent que 6 bébés sur 10 dans la première année de la vie sont aussi déprimés. Cette dépression post-natale de la femme dans la première année après la naissance de son enfant, cette dépression de bébé, elle passe inaperçue parce que dans notre système de santé, ni la dépression maternelle post-natale, ni la dépression du bébé, voilà, tout ça, ce n'est pas répertorié. Vous voyez, quand vous considérez ne fût-ce que ces deux problèmes-là, vous pouvez vous rendre compte de ce que les adultes qui sont nés dans ces conditions-là peuvent avoir comme problème de santé mentale. La consommation de drogue, ça c'est encore un fait évident. Des études qui ont été réalisées chez les enfants de la rue nous montrent que presque tous ces enfants de la rue consomment des substances psychoactives. Dernièrement, nous étions choqués par l'avènement du phénomène Bombé. Et on sait voir dans les rues, dans beaucoup de coins de la ville de Kinshasa, on voit des endroits où les boissons alcoolisées fortes sont vendues. Et par-ci, par-là, c'est la consommation du chanvre et la consommation de la cigarette. Donc, nous avons autant d'éléments qui indiquent que nous avons des problèmes de santé mentale qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas comptés. Mais l'idéal est que nous ayons une enquête nationale sur le problème de santé mentale à RDC, ce qui pourra permettre d'envisager ce que l'on doit faire pour protéger notre santé mentale et garantir notre développement.
Bien, professeur, alors quelles sont les différentes formes de problèmes de santé mentale que vous avez pu répertorier dans la société congolaise?
Oui, de façon générale, je voudrais d'abord répondre de façon générale sur les types de problèmes de santé mentale. Voilà, le premier type de problème de santé mentale, c'est un problème d'épanouissement personnel. Tout problème d'épanouissement personnel est un problème de santé mentale. C'est le premier type de problème. Alors posez-vous la question, regardez dans nos quartiers, dans nos familles, combien de personnes ne sont pas épanouies et vous avez une idée. Deuxième type de problème de santé mentale, c'est la détresse psychologique liée aux événements pénibles de la vie. Nous avons autant d'événements pénibles, autant d'événements stressants dans notre vie chaque jour à RDC, que beaucoup d'entre nous sont en situation de détresse psychologique. Et dans la détresse psychologique, on peut trouver la dépression mentale. Et on sait que généralement dans le monde, c'est jusqu'à 6 à 8% de personnes qui sont déprimées. Et si vous appliquez ça en RDC, vous aurez une idée du nombre de personnes déprimées en République démocratique du Congo. Alors, à part le problème d'épanouissement personnel, le problème de détresse psychologique avec dépression et anxiété, on a ce qu'on appelle la déficience cognitive. Et c'est cette incapacité à résoudre des problèmes dont pourtant les solutions sont là. Et si vous regardez la manière dont les choses se passent dans notre pays, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de service, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de cas de déficience intellectuelle, donc incapacité à résoudre même de problèmes simples. Et l'exemple que j'ai toujours considéré, c'est ce qui se passe dans la rue avec les embouteillages. Quand vous observez les comportements des gens, vous vous dites, mais nous sommes déficients cognitifs, parce qu'on pouvait résoudre ces problèmes, mais la manière dont nous circulons, dont nous compliquons les choses dans la rue, indique bien que nous sommes déficients cognitifs. Alors, la quatrième catégorie de problèmes de santé mentale, c'est constitue les troubles mentaux graves qu'on appelle les maladies mentales. Et bien sûr, nous en avons ici, on a ce qu'on appelle la schizophrénie, ce qu'on appelle la mélancolie, ce qu'on appelle la manie, et puis il y a ce qu'on appelle le bouffée délirante ou les troubles psychotiques aigus. Et puis, nous avons aussi le cas de psychose puérpérale. Donc, cette folie que la femme présente après accouchement, et c'est pratiquement 2 femmes sur 1000 accouchements qui présentent cette folie. Et ça cause des problèmes actuellement avec la maternité gratuite, parce que dans le processus de la couverture santé universelle, le CNPP n'a pas été inclus, ce qui fait que les autres hôpitaux qui reçoivent les femmes dans le cadre de la maternité gratuite ont des problèmes pour gérer ce type de folie, comme je l'ai dit, qui affecte pratiquement 2 accouchés sur 1000. Voilà. Bien. Et alors, à part ça, oui, il y a le problème de santé mentale lié à la consommation de drogue, et ça c'est beaucoup d'adolescents dans ce pays et qui ont ces problèmes-là et qui vont jusqu'à à la folie. Et de temps en temps, nous apprenons qu'il y a des gens qui se suicident. De plus en plus les gens qui se suicident, c'est aussi un autre effet de santé mentale. Nous avons aussi tous ces enfants délinquants, ces enfants de la rue, ces pombas, tout ça, ce sont de marques de problèmes de santé mentale que nous répertorions. Bien. Ça, c'est pour ce qui concerne les maladies mentales. Mais il y a le problème de santé mentale secondaire aux maladies neurologiques. Actuellement, nous avons de plus en plus de cas d'accidents vasculaires cérébrale. Les gens hypertendus, diabétiques, qui le vaisseau pète dans leur cerveau ou les vaisseaux sont bouchés, ils tombent dans la paralysie, ils perdent leur capacité de mouvement, leur capacité de langage, même leur capacité intellectuelle. Nous avons de plus en plus les cas, on en a toujours eu, les cas d'épilepsie. Épilepsie, cette maladie de l'activité électrique du cerveau qui se manifeste par des phénomènes qui arrivent et qui passent sous n'importe quelle forme. Beaucoup de cas d'épilepsie, que ce soit chez les enfants, chez les adultes ou chez les personnes de troisième âge.
Merci professeur. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir le professeur Abraham Mifundu, qui est neuropsychiatre. Professeur, bonjour. Professeur Abraham, bonjour. Bien, on va les relancer dans quelques instants. Nous avons un premier auditeur en ligne, Maître Omar Kigalo, depuis Kinshasa. Nous parlons de la santé mentale avec la description que le professeur vient de faire tout à l'heure. On comprend que le problème est sérieux. Donc, bon nombre de citoyens congolais sont touchés par cette question. On sont affectés mentalement. Maître Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour au professeur.
On vous écoute.
Oui, j'ai des questions à poser, mais je pense que ce que le professeur fait est pertinent, parce que même notre loi fondamentale dit tout Congolais a droit à la santé. Et les droits à la santé se mesurent non seulement à l'accès aux hôpitaux, mais à l'accès aux soins de santé de qualité. Merci au professeur pour ses conseils précieux. Ma première question, cher professeur, c'est par rapport à moi-même. Devant les grands défis, je stresse, surtout lorsque je vais plaider pendant les audiences, lorsque je vais faire quoi que ce soit. Bien que je le ferai bien, mais il y a toujours un stress, et une sorte de traumatisme. Est-ce un problème mental ou c'est un sentiment normal? Deux, vous avez parlé des problèmes mentaux. Nous, au barreau, chaque année, nous avons un séminaire sur la santé de l'avocat et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que les maladies cardiovasculaires sont également un problème mental? Troisième question, professeur, les causes et les conséquences des maladies mentales. Alors, quatrième question, vous parlez de quelques personnes qui présentent les signes des maladies mentales. Vous avez cité certains. Nous voyons souvent des gens, il y a quelqu'un normal, avocat, médecin, quoi, mais qui arrive à parler seul, à monologuer. Est-ce qu'il y a un problème mental? Il est en train de se promener, il parle seul. Dernière question, monsieur le professeur. Vous parlez des problèmes mentaux, des santé mentale, et vous catégorisez plusieurs personnes. Est-ce qu'une personne qui a été président d'une assemblée nationale, qui est absente de devenir deuxième vice-président, est-ce qu'il n'a pas un problème mental? Quelqu'un qui a été président du Sénat et qui avait devenu deuxième vice-président du Sénat, est-ce que c'est un problème mental ou c'est un problème social? Voici mes quelques questions, professeur. Je vous remercie.
Bien, merci Maître Omar Kigalo. Nous parlons de la santé mentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé mentale? Professeur Mifundu Abraham, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes neuropsychiatre et vous intervenez depuis Luozi, dans la province du Congo central. Alors, vous avez suivi certainement les questions de Maître Omar. Qu'est-ce que vous pouvez, quelles sont les réponses que vous pouvez lui adresser?
En fait, le problème de santé mentale sont des problèmes qui sont très actuels aujourd'hui. Et les personnes qui en souffrent sont de... C'est tout le monde qui peut en souffrir. Et ce problème peut peut-être soit de problème au temps qu'on qualifiait avant de folie. Et même certains problèmes sont des problèmes psychosociaux, comme le problème de violence sexuelle qui sont associés à certaines perturbations. Les personnes qui en souffrent sont perturbées du point de vue économique, ils ne sont pas acceptées et qui peuvent même aller jusqu'au suicide.
Et en milieu rural, comment se présente le tableau en milieu rural, professeur?
En milieu rural, en fait, il n'y a pas tellement beaucoup de différences. Ici, par exemple, à Luozi, la conception de la maladie mentale étant surtout mystico-religieuse, les gens, parfois ça dépend du problème, parfois ils s'agitent et parfois ils ne dorment pas très très bien et parfois ils deviennent très agressifs vis-à-vis de leurs persécuteurs. et parfois même ils s'isolent. Et ceux qui consomment les substances psychoactives, les drogues, ils peuvent devenir très 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 agités et parfois même ils peuvent se suicider, mais c'est quand même un peu rare, mais ça arrive souvent. Donc les tableaux souvent sont assez divers.
Voilà, on a appris que par exemple à Matadi et à Boma, il y a beaucoup de personnes qui souffrent des troubles mentaux. Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est lié aux problèmes, c'est des problèmes mystico-religieux ou des problèmes mystico-religieux ou quoi?
En fait, c'est l'interprétation de la maladie. Ici, en fait, la maladie n'est jamais fortuite. Et quand quelqu'un tombe malade, généralement, on recherche la cause et on pense souvent à la sorcellerie. On pense qu'ils sont victimes d'un mauvais sort qui est jeté par les autres. Et quand c'est un mauvais sort jeté par les autres, souvent ils peuvent réagir de manière parfois assez agressive, frapper l'agresseur ou même s'isoler de cet agresseur. Et quand c'est un parent, parfois on l'assiste pas.
Bien, je reviens à vous, professeur. Je donne la parole au professeur Okitundu. Vous avez suivi les différentes préoccupations de Maître Omar. Il dit qu'il stresse devant chaque plaidoirie. Est-ce que c'est un problème de santé mentale ou pas? Le stress qu'il a avant de commencer sa plaidoirie.
Oui, je commence par saluer Maître Omar et tous les auditeurs des radios Capi qui nous suivent en ce moment. Oui, je voudrais répondre à ces questions en commençant par définir ce qu'on appelle problème ou problème de santé mentale. C'est une situation dans laquelle une personne a besoin d'une aide et une aide que la personne ne peut elle-même se donner. Il stresse en situation d'audience. S'il gère ce stress-là, ce n'est pas un problème. Mais si ce stress-là l'empêche de travailler convenablement, d'obtenir le résultat escompté dans son travail, ça peut être considéré comme un problème de santé mentale pour lequel il peut avoir besoin de l'aide d'un psychologue clinicien. Alors, il y a eu la question où il dit quelqu'un qui se parle seul, monologué, ou faire ce qu'on appelle chez nous en psychiatrie soliloquie. Il y a des contextes de conditions de maladie mentale grave où on peut trouver ces signes. Donc quand quelqu'un fait ça, il faut lui rechercher d'autres éléments qui peuvent indiquer qu'il peut avoir un problème de santé mentale grave. Alors une personne qui accepte un changement de position ou de fonction en quittant une fonction plus élevée vers une fonction de moindre valeur, oui, ça c'est relatif, hein. Et ça dépend de la manière dont la personne peut vivre ça, mais ça peut être un signe de bonne adaptation, mais ça peut être aussi, si on y tient mordicus, ça peut être aussi la manifestation d'une situation de santé mentale qui ne tourne pas rond. Alors, il y a eu une autre question là que j'ai perdu de vue, la deuxième question.
Il a dit est-ce que les maladies cardiovasculaires font partie aussi peuvent conduire à des problèmes de santé mentale?
Une très bonne question. Quand nous étudions les causes des maladies mentales, il y a une théorie qu'on appelle l'origine développementale des états de santé et de maladie. C'est-à-dire les expositions auxquels nous sommes confrontés ou les risques auxquels nous sommes exposés au début de la vie, pendant le temps de grossesse et pendant les deux premières années de la vie, conduisent à une situation de santé qu'on appelle syndrome métabolique. Et dans cette situation, condition de santé, il y a le maladie cardiovasculaire, il y a les accidents vasculaires cérébraux, il y a le diabète de type 2, et puis il y a l'obésité. Donc le fait d'avoir une affection cardiovasculaire peut être associé à un dysfonctionnement pour ce qui concerne le cerveau. Donc ça constitue une condition à risque d'avoir un accident vasculaire, une condition à risque d'être déprimé. On sait que les gens qui ont les maladies cardiovasculaires, ils ont l'anxiété, ils ont la dépression. Et quand dans le système de soins, on ne tient pas compte de leur détresse psychologique, on les soigne mal. Donc c'est une condition associée certainement au problème de santé mentale dans le cadre du syndrome métabolique qui est d'origine développemental ou développemental, et dans le cadre des conséquences neuropsychiques de maladies cardiovasculaires en termes d'anxiété et de dépression. Voilà.
Bien. Professeur Mifundu, est-ce que vous pouvez nous parler du projet initié au Congo central avec l'ONG MEMISA dans le cadre de la médecine intégrée? On parle aujourd'hui d'un projet d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé de base. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Effectivement, le MEMISA est en train d'appuyer un projet de santé mentale qui consiste à une intégration des soins de santé mentale primaire dans les soins de santé primaire de manière générale. Et en fait, MEMISA au début a appuyé un état des lieux. L'état des lieux veut dire quoi? Il a consisté à voir quels sont les problèmes, et quelles sont les capacités que présentait la zone de santé pour répondre à cela. Eh bien, il a montré, par exemple, qu'il y a beaucoup de malades, que le malade, l'origine de la maladie, comme je l'ai dit avant, c'est plus mystique, et la prise en charge était plus assurée par les traduits praticiens et les religieux. Et bien sûr que dans les structures de santé, il existait des infirmiers, des médecins, mais dont les capacités n'étaient pas renforcées. Alors là, l'activité qui suivait, c'est de renforcer les capacités de tout le monde, de serrer au niveau de la communauté, de tous ces relais communautaires, de tous ces traduits praticiens et de tous les quelques religieux et aussi de tous les infirmiers et les médecins qui travaillent dans les soins de santé. Et il a été doté, ils sont dotés en médicaments. Et actuellement, il est en train d'être assuré le suivi. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la communauté, les relais communautaires et les religieux, qui ont maintenant les capacités renforcées, identifient, ils détectent le malade dans la communauté et ils les accompagnent à l'hôpital ou à l'hôpital, ils sont pris en charge. Et aussi, quand ils terminent leur prise en charge à l'hôpital, ils rentrent dans la communauté, ces religieux qui ont été formés, ces traduits praticiens qui ont été formés, et le traduit praticien, les religieux et les communautaires, eh bien, ils accompagnent dans la communauté pour suivre un peu leur évolution et les intégrer dans des activités pour qu'ils mènent une vie normale. Et il y a une équipe qui est multidisciplinaire du Programme national de santé mentale, moi-même, et le représentant de MEMISA assez régulièrement, nous passons pour assurer le suivi. Et d'ailleurs, je suis ici avec, on est en pleine mission, aujourd'hui on est venu pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale à Manguembo, et je suis avec d'ailleurs les responsables du programme qui peut dire quelque chose.
Bien, professeur Okitundu, vous êtes aujourd'hui le médecin directeur du CNPP. Alors, dites-nous, là-bas, vous recevez combien, par exemple, des personnes qui viennent pour des problèmes de santé mentale est-ce qu'on peut connaître peut-être une moyenne que vous recevez par semaine ou par mois?
Oui, je disais que, oui, maintenant on arrive... entre 1000 et 2000.
Hein. Entre 1000 et 2000 personnes par mois.
Oui, oui.
Voilà, donc...
Non, je voudrais dire en termes de nombre de consultations. Nombre de consultations. Mais en termes de personnes, on peut être autour de... il y a de 650.
Et ces gens viennent pour de quel type de cas, par exemple?
Oui, il y a les enfants qui viennent pour des problèmes de développement, des enfants qui n'arrivent pas à marcher et à parler. Il y a des enfants qui ont aussi des troubles de comportement. Il y a des enfants qui ont les troubles d'autisme, par exemple, que nous recevons aussi. Mais beaucoup d'enfants ont des problèmes d'épilepsie. Alors, l'épilepsie, on retrouve ça aussi chez les adultes. On a aussi les gens qui ont des séquelles d'AVC. On a des adolescents qui ont des troubles de comportement après la consommation de substances psychoactives. On a des femmes aussi qui présentent les troubles de comportement après accouchement. Voilà, il y a des gens beaucoup de cas de gens qui viennent pour des maux de tête chroniques. Ils ont des maux de tête qui ne finissent pas malgré la consommation de médicaments contre la malaria autant de fois.
Bien, alors, voilà, ce sont là les types de cas que vous recevez régulièrement au CNPP. Alors, dites-nous, docteur Okitundu, quels sont, on comprend qu'il y a, beaucoup de problèmes de santé mentale. Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez?
Ah oui, voilà, nous savons que notre pays avait déjà adopté l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Et que depuis 2001, au niveau du ministère, nous avons un programme de santé nationale de santé mentale qui a la responsabilité de concevoir le dispositif de prise en charge de problèmes de santé mentale. Et puis, nous savons que depuis 2004, avec l'appui de l'OMS, on avait défini le contenu du paquet minimum d'activité de soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. Et puis, je pense, depuis 2020, nous avons un document de politique nationale de santé mentale. Et dernièrement, on vient d'avoir un atelier pour une approche multidimensionnelle de la santé, multisectorielle, pardon, de la santé mentale en milieu du travail. Mais quand on regarde la situation sur terrain, la santé mentale n'est pas encore intégrée de manière qu'il faut dans les soins de santé primaire. Et nous pensons que il faudrait revoir le cadre organique du ministère de la Santé de telle sorte que au niveau des hôpitaux généraux, que nous ayons un service de santé mentale comprenant le soin de psychiatrie, les soins de neurologie, les soins relatifs à la psychologie clinique et les activités de soutien psychosocial. Si au niveau des hôpitaux généraux, nous avons cette structure-là, elle pourra travailler pour implémenter convenablement les soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. Voilà, cela n'a pas encore lieu. Je pense que les réflexions sont en cours. Mais en attendant, ce qu'il faudrait faire, c'est informer et sensibiliser la population sur la santé mentale, parce que c'est un domaine, voilà, mal connu. Oui. Les gens ne savent pas ce que c'est que la santé mentale. Il faut envisager la santé mentale pour le bébé, la santé mentale pour la femme enceinte, la femme allaitante, la santé mentale pour les élèves, et la santé mentale pour les étudiants, la santé mentale pour les jeunes en pleine activité de vie, la santé mentale pour les personnes de troisième âge et au-delà. Il faut informer et sensibiliser la population sur tous ces aspects-là. Et il faut prêcher l'hygiène mentale. Et ça, c'est très important. L'hygiène mentale, on peut la présenter sous six aspects. Il y a ce qui est lié au sommeil. On doit dormir suffisamment, n'est-ce pas? Et dormir dans des conditions où on n'est pas dérangé ni par le bruit, ni par la lumière. Mais regarde ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Trop de bruit. Et on doit dormir, en fait. Il y a des petits dormeurs qui font 5h30 de sommeil. Les gros dormeurs vont jusqu'à 9h30. Il ne faut pas aller là-bas. Je pense que la moyenne de 2, ça nous donne... la moyenne de 2 va nous donner 7 à 8 heures. Oui. Même 6 heures, c'est bon. Oui. Alors, donc, le sommeil. Alors, il faut voir combien d'entre nous ne dorment pas bien, enfants et adultes, personnes. Dès qu'on ne dort pas bien, c'est déjà une voie pour avoir des problèmes de santé mentale. Il y a l'alimentation. Mais nous sommes en situation d'insécurité alimentaire. On ne peut pas être en bonne santé mentale quand on est en situation d'insécurité alimentaire, parce que le cerveau a besoin des nutriments pour bien fonctionner, et c'est le cerveau qui porte la santé mentale. Toutefois, les gens doivent veiller à avoir une bonne alimentation pour être en bonne santé mentale. C'est-à-dire manger aux mêmes heures et avoir une alimentation équilibrée avec tous les éléments nécessaires et boire suffisamment d'eau. Troisième élément, c'est la pratique des activités physiques, du sport. On doit pratiquer du sport, avoir des activités physiques. Ça fait du bien au cerveau. Alors, quatrième élément, c'est les restrictions concernant la consommation de l'alcool, du tabac et autres drogues. Donc, tout ça, on doit consommer toutes ces substances-là. Pour les gens qui consomment l'alcool, ils doivent consommer ça avec dans des conditions tout à fait qui compatibles avec la bonne santé mentale. La cigarette n'a pas... il n'y a pas de raison de consommer la cigarette parce que elle donne lieu à beaucoup de maladies, sans oublier d'autres substances comme le chanvre, la cocaïne, l'héroïne. Tout ça, on ne doit pas consommer. Donc, les règles d'hygiène mentale doivent être établies par rapport à la consommation des substances psychoactives.
Bien.
Alors,
oui.
Il y a le traitement des différentes maladies dont on peut, il faut bien se faire soigner. Parce que toute maladie qui affecte le corps a toujours un retentissement sur le fonctionnement du cerveau, ne fût-ce qu'en termes de stress. Donc il faut être bien soigné chaque fois qu'on est malade. Le dernier élément pour lequel je voudrais dire quelque chose, c'est la sexualité. Il faut avoir une sexualité responsable, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, et on sait que le problème sexuel nous apporte beaucoup de stress et de tout genre. Et ici, on sait par exemple que quand la sexualité est mal conduite et qu'on arrive à une situation de grossesse non désirée, de naissance non désirée.
Tout ça, c'est stressant.
Mais, grossesse non désirée, de naissance non désirée, c'est l'avenue d'un grand nombre de problèmes de santé mentale. Parce qu'on sait que quand on est d'une grossesse non désirée, en tant qu'enfant, on ne va pas bien se développer mentalement. Et la mère qui a accouché d'une grossesse non désirée aura un risque élevé d'avoir une dépression maternelle post-natale. Et on sait que les personnes qui naissent sans avoir été désirées deviennent des délinquants. Et le risque a été calculé, 30 à 60% de cas de naissances non désirées et conduisent à la délinquance à un âge donné de la vie.
Bien, donc, professeur. Oui, je reviens à vous tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Professeur Abraham Mifundu, vous êtes un neuropsychiatre, vous êtes dans le Congo central à Luozi. Alors, dites-nous, quel est le traitement approprié, par exemple, pour toutes ces personnes atteintes de folie à Matadi, à Boma ou ailleurs? Quel est le traitement approprié? Ou la bonne prise en charge? Professeur Abraham, vous êtes là? Allô? Voilà, je pense qu'on a perdu. On va tenter de le récupérer, de le reprendre tout à l'heure. Nous parlons de la santé mentale. Comment maintenir une bonne santé mentale? Appelez-nous pour participer au 099 706 99 41.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Bien, là, nous parlons de la santé mentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé mentale? Notre invité, Dr Okitundu, nous a dit tout à l'heure qu'il faut, une bonne hygiène mentale, bien dormir, dormir suffisamment, et puis bien manger, avoir aussi des activités physiques, éviter trop l'alcool, les tabacs, les drogues, et puis avoir une sexualité responsable. Professeur Abraham Mifundu, vous êtes de nouveau en ligne.
En fait, ici, il y a des problèmes de communication.
Ah, ok,
en
d'accord.
En fait, ici, au niveau rural, il y a des médicaments modernes sont utilisés. Et ça dépend de quel type de la maladie qu'on trouve. On peut donner de médicaments antidépresseurs quand il s'agit de la dépression. Il y a des médicaments contre la psychose. Mais aussi à cela, il est associé d'autres stratégies, comme par exemple quand il s'agit d'un problème lié à un problème lié à une perturbation de relations au niveau de la famille, on peut faire la médiation et on peut aussi faire la psychothérapie, donc des entretiens pour résoudre le problème de santé, mais aussi au-delà de médicaments et de toutes ces stratégies liées à la résolution des problèmes relationnels, il y a aussi des prières. Vous savez que nous travaillons avec les religieux et aussi déjà avant même que les malades arrivent, ils bénéficient de certaines thérapeutiques dont on ne connaît pas bien sûr l'efficacité, mais que nous n'encourageons pas et pourtant, mais qu'ils bénéficient quand même. Donc on associe le médicament dans les hôpitaux et quand le malade est soigné sous le médicament, par exemple quand il s'agit des états aigus où les malades dérangent beaucoup, on commence d'abord avec le médicament. Et quand le malade se calme, on peut le prendre dans des entretiens. Mais aussi, on associe la famille. La famille aussi intégrée dans la prise en charge. Et aussi, quand il entre dans leur communauté, et ce sont des malades souvent qui sont abandonnés, qui n'ont pas de travail, qui ne savent rien faire, eh bien, on leur prend parfois certaines petites activités comme des activités artisanales, mais aussi on les intègre dans une activité qui leur permette d'être assez socialement acceptable. Donc c'est vraiment tout un panel d'activités qui sont mises en œuvre pour que les malades puissent se récupérer. D'abord les calmer, prendre en charge son trouble mental, et puis faire en sorte qu'on les intègre et nos stratégies prises en charge prennent aussi en considération l'intervention des traduits praticiens et des religieux.
Oui, professeur Mifundu, prenons le cas de ces personnes qui ont subi pendant près de 20 ans à l'est du pays, ils ont vécu dans cet environnement des conflits armés et tout ça, on suppose qu'il y a des traumatismes, des nombreux traumatismes. Comment doit se faire la prise en charge de toutes ces personnes traumatisées durant plus de 20 ans?
En fait, quand il arrive, il faudrait voir, c'est au cas par cas, il faudrait, on l'écoute, on comprend très bien son problème, et on le comprend aussi, on comprend aussi son entourage, et les possibilités qui sont localement là-bas, et on met tout un projet de prise en charge, et selon qu'il s'agit d'un véritable trouble assez majeur, comme une dépression, comme une psychose. Là, on commence d'abord par les médicaments. Et après avoir pris en charge, après l'avoir calmé, le mettre donc en condition d'être pris en charge psychologiquement, il y a tout un volet qu'on appelle la prise en charge psychosociale et même un volet économique. Donc, on les accompagne pour traiter les problèmes d'émotion dont ils souffrent. Et c'est là grâce aux entretiens assez réguliers qu'on met en place. Et aussi, vous savez qu'ils sont victimes d'une violence sexuelle. C'est une atteinte aussi aux droits. Eh bien, les interventions judiciaires aussi, les réparations judiciaires aussi peuvent être mises en œuvre. Et quand il s'agit par exemple d'une femme qui a été victime d'une violence sexuelle, notamment un viol, eh bien, il n'est pas facilement accepté par, euh, par les maris ou par la famille, il y a toute une médiation à mettre en route pour qu'ils soient acceptés et pour qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la communauté. Mais aussi, parfois, ils perdent leur capacité économique. Donc, c'est autant de stratégies qui sont mobilisées et qui concernent lui-même le malade, mais aussi qui peuvent s'étendre à la communauté dont ils souffrent. Par exemple, ici, dans la zone de santé de Manguebo, le problème psychosocial qui est plus en vogue ici, c'est le problème de l'héritage. Et parfois, au décès d'un mari, la femme est dépouillée, et les enfants sont aussi dépouillés, et il s'ensuit une véritable souffrance psychologique qu'il faudrait aussi prendre en charge. Mmh. Il y a aussi de problèmes d'être qualifié de sorcier, par exemple, hein, parce que c'est assez fréquent ici. Mmh. Eh bien, ce sont des personnes qui souffrent de façon émotive, qui ont vraiment une honte de se présenter dans leur communauté et qui sont parfois menacées d'être agressées physiquement. Donc, il faudrait, dans ces cas-là, nous organisons une prise en charge qui est destinée à la personne qui en prend en charge sa souffrance psychologique, parce que si elle n'est pas bien prise en charge, elle peut même conduire jusqu'à la mort, jusqu'à l'isolement, il peut fuir même le village. Et aussi la communauté qui devra l'accompagner, qui devra accepter que finalement il n'a pas été l'auteur du forfait parfois qu'on lui reproche. Et voilà, donc on prend en charge et la famille et lui-même et son entourage et la communauté, mais aussi il faut associer à cela, nous associons à cela aussi des activités de sensibilisation de la communauté, et là nous utilisons souvent les relais communautaires. Les relais communautaires, ce sont des personnes qui ont été identifiées par lui-même les villages et qui aménagent tous les problèmes de la communauté, notamment leur développement. Et finalement, quand ils sont bien sensibilisés, nous espérons que ça peut bien aider la personne en souffrance. Il y a par exemple l'épilepsie aussi. Mmh. L'épilepsie qui est assez fréquente ici. Hein, les problèmes d'épilepsie qui sont assez fréquents. Comme l'a dit le professeur Okitundu, les conditions de maternité dans le semi-milieu rural ici, les femmes qui accouchent souvent à la maison dans des conditions qui sont assez déplorables, avec matériel parfois qui ne soit pas recommandable, eh bien les enfants qui en naissent souvent ont des problèmes, ont une souffrance cérébrale qui peut amener à des crises d'épilepsie. Et ici, l'épilepsie constitue le problème pratiquement majeur de santé mentale qui est pris en charge ici dans la zone de santé de Manguebo.
Bien, professeur Abraham Ifundu, neuropsychiatre, merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, docteur Okitundu, on va conclure avec vous cette émission. Qu'est-ce qu'on retient pour avoir une bonne santé mentale?
Oui, pour avoir une bonne santé mentale, il faut respecter les règles d'hygiène mentale par rapport aux six aspects que nous avons mentionnés. Il faut avoir une bonne gestion du stress, il faut savoir gérer le stress, et quand on se sent stressé et qu'on dysfonctionne sur le plan professionnel et sur le plan social, il faut absolument demander de l'aide, et on peut commencer à demander l'aide de psychologues cliniciens ou demander directement l'aide d'un médecin neuropsychiatre, psychiatre ou neurologue dans notre contexte. Voilà, voilà ce que je peux dire en résumé.
Bien, professeur Okitundu, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur du CNPP, Centre National qui prend en charge des problèmes neuro-psychopathologiques à Kinshasa. Mais une dernière question avant de terminer, professeur. Est-ce que vous avez assez de personnel à travers le pays pour la prise en charge des malades?
Exact. J'ai la liste ici et je vous dis que si le gouvernement voudrait bien s'occuper de la santé mentale de notre population, le CNPP a formé suffisamment de gens pour qu'on puisse nous activer sur l'ensemble du pays. Nous avons 23 professeurs dans le domaine, 16 chefs de travaux, 17 spécialistes. Nous avons 61 assistants en formation, les seniors, on en a 75 comme juniors. Donc ça fait au total 192 personnes comme ressources humaines et que le pays peut utiliser pour organiser la santé mentale au pays. Et vous savez ce qui se passe actuellement, comme toutes ces personnes ne sont pas suffisamment utilisées, mais c'est d'autres pays du monde qui les attirent, notamment la France. Il y a beaucoup de médecins et congolais du domaine de la santé mentale qui travaillent maintenant en France.
Merci. Parce que, merci voilà, beaucoup, docteur. D'accord, merci beaucoup docteur Okitundu, médecin directeur du centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa. Excellente journée et à la prochaine.